Nous n'en connaissions aucune avant 1995 et en 20 ans, le nombre d'exoplanètes identifiées atteint maintenant presque les 4000. Les exoplanètes, ce sont ces planètes situées en dehors de notre système solaire et qui suscitent un intérêt majeur chez les astronomes en quête de formes de vie ailleurs dans l'univers. Le fantasme de la vie extraterrestre reste donc plus vivant que jamais avec ces planètes d'une très grande variété. C'est le dossier cet après-midi de l'émission qui est réalisé aujourd'hui en direct du studio 106 avec des classes de 4 lycées à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école. Les élèves qui poseront des questions à nos invités, comme vous pouvez le faire également sur ces exoplanètes en nous rejoignant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et à la une de la science aujourd'hui, une étude importante qui pourrait réécrire toute l'histoire des dinosaures.
Oui, ce sont des chercheurs anglais qui sortent aujourd'hui une petite bombe jurassique. Ils proposent de revoir complètement l'arbre de l'évolution des dinosaures, une étude polémique que l'on explore avec le paléontologue Ronan Alain.
Stéphanie Texier est aux commandes de notre Tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Thomas Lehété.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Avec donc un dossier dans un instant consacré aux exoplanètes et je salue mes invités, les astrophysiciens Alain Lecavelier, Franck Celsis et Philippe Hénarejos pour Ciel et Espace. Bonjour.
Bonjour.
Les trois.
Bonjour.
Philippe, on en est à combien d'exoplanètes très exactement, s'il vous plaît, découvertes?
Mathieu, vous avez dit tout à l'heure presque 4000 et je crois c'est autour de 3600. Ouais. Mais il y a une chose qui est rigolote. Ce matin même, je travaillais sur un article à Ciel et Espace et je consultais de vieux Ciel et Espace et je suis tombé sur un Ciel et Espace de 2003. On avait fait une couverture, on disait, avec Michel Mayor, qui a été le premier à découvrir les exoplanètes, où on annonçait, ils vont découvrir 1000 exoplanètes, on est déjà bien au-delà de ça.
Alain Lecavelier, est-ce qu'aujourd'hui, justement, parmi toutes ces exoplanètes, il y en a une qui vous intéresse tout particulièrement?
Oui, il y en a une qui attire énormément mon regard, c'est Beta Pictoris B, parce que c'est une planète dans un système planétaire jeune, donc c'est plus qu'une planète, c'est un système planétaire complet, avec des comètes, du gaz, des poussières, des astéroïdes. Vraiment un système extraordinaire.
Ouais, c'est une icône même, effectivement, on en reparlera tout à l'heure avec vous. Franck Celsis, est-ce que la découverte de vie ailleurs sur l'une, justement, de ces planètes, pourrait se confirmer là dans les années à venir, ou est-ce qu'on en est loin?
Alors, c'est peut-être un peu osé de dire ça. Pour confirmer, il faudrait déjà qu'on ait des soupçons, mais il ne faut pas brûler les étapes. La prochaine étape, ce sera déjà d'essayer d'avoir une idée des conditions à la surface de ces planètes, de leur climat, et déjà ça, ce sera très difficile.
Oui. On en parle avec vous dans un instant pour justement découvrir toutes les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Et on se retrouve donc avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent et les lycéens qui sont avec nous en studio. Et donc le grand groupe des dinosaures qui fait sa révolution aujourd'hui à la une de la science.
C'est juste comme une grosse dinde.
Une dinde. Alors essaie de t'imaginer à l'ère crétacée. Tu jettes ton premier coup d'œil sur cette grosse dinde en débouchant dans une clairière. Elle avance comme un oiseau, en hochant de la tête. Et c'est alors que l'attaque survient. Elle ne vient pas de face, mais par les côtés. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore.
Voilà, la grosse dinde, c'est un vélociraptor, en l'occurrence présenté dans cet extrait de Jurassic Park. Et pour justement en discuter aujourd'hui avec cette étude publiée dans la revue Nature et ces scientifiques de Cambridge qui proposent une toute nouvelle histoire de l'évolution des dinosaures, nous sommes avec vous, Ronan Alain. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue, responsable des collections d'oiseaux et de reptiles fossiles au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors d'abord, expliquez-nous comment sont classés les dinosaures, ce que, a priori, les collégiens ou les lycéens ici présents connaissent de leur manuel.
Alors c'est une très très longue histoire qui remonte à la création même du mot dinosaure. Donc on est en 1842, c'est le paléontologue Richard Owen qui crée le mot dinosaure pour regrouper 3-4 bestioles qu'on a trouvées dans le Crétacé et le Jurassique anglais. Donc il crée ce mot et 20 ans plus tard, un de ses collègues anglais toujours, Harry Goversillet, va proposer de classer les dinosaures, on a découvert un petit peu plus depuis, en deux groupes. D'un côté les saurischiens, qui sont des dinosaures qui ont un bassin qui ressemble à celui des lézards. En fait, les trois os qui composent le bassin vont définir trois directions différentes. Et de l'autre côté, les ornithischiens, avec un bassin toujours avec les mêmes trois os, mais avec un pubis qui définit deux directions, donc un bassin qui va être tétraradié et qui montre une anatomie particulière.
Tétraradié, ça veut dire quoi exactement?
Tétraradié, quatre directions différentes.
Merci.
Voilà. Et donc à partir de là, on va garder cette grande dichotomie dans l'histoire des dinosaures et on va mettre les dinosaures soit dans les saurischiens, soit dans les ornithischiens, jusqu'à peu près aujourd'hui.
Alors, du coup, qu'est-ce qui change aujourd'hui, puisque la publication date de ce matin, dans les nouveaux groupes de dinosaures proposés par ces chercheurs anglais ?
Alors en fait, il n'y a pas de nouveaux groupes proposés, il y a des nouvelles recombinaisons, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut prendre, par exemple, le groupe des sauropodes, qui est connu par le diplodocus, si on peut donner un exemple. On peut prendre le groupe des théropodes, connu par le tyrannosaure, et puis le groupe des ornithischiens, qu'on connaît par exemple, l'iguanodon. Alors jusqu'ici, donc, on groupait plus volontiers notre diplodocus avec les théropodes, donc avec le tyrannosaure, et les ornithischiens, l'iguanodon, étaient dans son groupe à part. Et là, ce que proposent les collègues anglais, c'est de regrouper les ornithischiens, donc l'iguanodonte, avec le tyrannosaure. Et donc, c'est un regroupement qui se ferait à la base des dinosaures, qui se ferait dès 220 millions d'années.
Mais ça, c'est une révolution en soi ou pas ?
C'est une révolution en soi, parce que je vous dis, ça fait 150 ans, et je pense que les lycéens qui sont présents ici, s'ils ont fait un petit peu de phylogénie, donc ils ont reconstruit des arbres phylogénétiques, ont dû apprendre que les oiseaux sont des dinosaures, et ils ont dû aussi apprendre que les dinosaures sont divisés en ornithischiens et en saurischiens. Et on apprend ça aux enfants, hein, je vais pas...
C'est vrai ?
Oui, oui, ah bon. C'est dans tous les bons livres, même dans tous les mauvais livres, ouais. Dans tous les livres sur les dinosaures, à 7-8 ans, tous les paléontologues vont donner cette grande dichotomie, et donc tout le monde connaît ça, les gens qui s'intéressent aux dinosaures connaissent cette dichotomie, et donc là on va bouleverser un petit peu les habitudes.
Ça veut dire qu'on connaissait vraiment mal les dinosaures ou c'est simplement une nouvelle façon de revoir les fossiles qu'on connaissait ?
Alors après, l'article vient juste de sortir, il va devoir passer à la moulinette scientifique. Évidemment, je l'ai relu en détail ce matin, il y a des choses qui sont un petit peu contestables, je pense, dans cet article. En fait, cet article, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau ? En fait, il a pris toutes les analyses, les données qui ont été faites ces 15 dernières années, il a tout regroupé et il a traité l'ensemble des données. Donc c'est un peu un papier sur des big data, comme on le dit aujourd'hui. Le problème de ces big data, c'est qu'on a la quantité, mais on a rarement la qualité. Et quand on travaille sur les liens de parenté entre les dinosaures, ce qui est important, c'est d'avoir un grand nombre de caractères pour pouvoir inférer ces liens, mais c'est aussi d'avoir des caractères de qualité, si j'ai envie de dire, des caractères qui sont bien définis. Tel processus sur tel os doit être bien décrit, on doit tenir compte de la fossilisation, on doit tenir compte des fossiles qu'on a à disposition. Donc voilà, il va falloir peut-être revenir maintenant, arrêter de faire ces grandes matrices de données anatomiques qui vont passer par la moulinette informatique, peut-être revenir un petit peu plus sur la qualité des données.
Avec des fossiles, avec des...
Alors avec des fossiles, il y a des fossiles hein, à la base. Le problème, c'est de ne pas réutiliser telles quelles les données des collègues, c'est de les reprendre et de les réinvestir par soi-même avec sa propre observation. La paléontologie est une science naturaliste et donc fait appel à l'observation.
Renan Alain, on a une question pour vous dans le public et je crois que c'est Chiara, c'est ça, qui est du lycée Condorcet. Bonjour Chiara.
Bonjour. Est-ce que c'est vrai que les dinosaures avaient des plumes ?
Alors, effectivement, ça fait... Donc, on sait que les oiseaux ont des plumes, on sait que les dinosaures carnivores, certains dinosaures carnivores, certains théropodes ont des plumes. Et ce qui est très intéressant, c'est que certains ornithischiens, donc ces fameux dinosaures proches de l'iguanodonte, ont eux aussi... quelques exemplaires ont été retrouvés avec des plumes. Et donc, avec cette nouvelle étude, on pourrait peut-être même inférer que les plumes... si ça se confirme, les plumes seraient apparues non pas il y a 170 millions d'années comme on le pensait, mais dès l'origine des dinosaures, il y a 220 millions d'années.
Une question plus large, si on refaisait ce même travail de big data, de moulinette, mais avec d'autres groupes comme les mammifères ou les insectes, on n'aurait pas le même genre de surprise dans la classification ?
Alors, on pourrait avoir le même genre de surprise. Il y a une différence énorme avec les insectes et les mammifères. C'est qu'aujourd'hui, des insectes et des mammifères, vous en avez quand même beaucoup. Et vous pouvez utiliser les données moléculaires. Donc en fait, actuellement, on construit les phylogénies avec deux approches, une approche moléculariste en utilisant l'ADN des animaux actuels et une approche anatomique quand on veut mettre les fossiles. Mais on peut grouper les deux. Quand vous êtes sur les dinosaures, en particulier les dinosaures, les grands dinosaures dont on parle, vous n'avez plus de molécules, donc vous êtes obligé de vous cantonner à l'anatomie.
Renaud Alain, aujourd'hui c'est encore un sens de parler de dinosaures ou il faut modifier jusqu'au terme de ces animaux ?
Alors avec l'étude qui vient de sortir, ça a toujours un sens, mais on pourrait peut-être aller plus loin et on ne peut pas complètement exclure qu'on revienne à cette vieille vision de 1880 de Sillé dont je parlais au départ, qui pensait que lui, il y avait les ornithischiens d'un côté, les sauriciens de l'autre, et que les deux n'étaient pas du tout apparentés et formaient deux groupes de reptiles complètement différents qui auraient évolué chacun de leur côté. Donc on peut pas l'exclure complètement à l'heure actuelle, ouais. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de collègues qui vont rentrer dans la brèche et tester, ouais, ces hypothèses.
Donc la science va faire marche arrière quasiment ?
La science fait marche arrière. On a tendance à croire qu'avec toutes les méthodologies modernes, la science avance à pas de géant,
ouais.
Mais faut pas rejeter tout ce qu'ont fait nos collègues du 19e siècle, voire même du 20e siècle. Ils avaient malheureusement pas les moyens techniques qu'on a, mais la technique ne fait pas tout. Après, il y a l'analyse, et il y a des analyses qui sont faites simplement sur l'observation qui peuvent être très très pertinentes, et ça, cette étude nous le démontre.
C'est triste, mais oui, parce qu'on pourra plus dire que les oiseaux sont des dinosaures, alors que c'est quelque chose qui a quand même du mal à passer chez le grand public.
On pourra plus le dire, ça, vraiment ?
Ah, si on n'a plus de dinosaures.
Ça dépendra si on redéfinit le terme dinosaure, et puis surtout, on pourra aussi s'amuser à dire que les oiseaux sont des théropodes, donc des tyrannosaures, si vous voulez. Donc ouais. Ça restera toujours assez.
Bon, cette étude, vous la validez, vous, Renaud Alain, à titre personnel ou pas ?
À titre personnel, je pense que les données qui sont dans l'étude sont probablement bonnes, et je pense qu'il n'y a pas à revenir sur la qualité scientifique du travail. Après, moi je vais attendre un petit peu avant de dire que les ornithischiens sont le groupe frère des théropodes. Il va falloir que je travaille sur les mêmes données. On verra un petit peu plus tard.
D'ici là, on ne va pas vous contredire, ne vous inquiétez pas. En tout cas, bouleversement au pays des dinosaures. Merci beaucoup, Renaud Alain, d'être venu nous en parler. Et puis Axel, on se retrouve
lundi.
Demain, on n'est pas vendredi.
Au salon du livre, mais il n'y a pas de
livre
de la science.
Ah oui, c'est vrai, exactement. Donc ce sera lundi en ce qui nous concerne. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les poumons qui pourraient produire plus de la moitié de nos plaquettes sanguines, ces cellules qui se trouvent dans notre sang et qui participent à sa coagulation, eh bien cette découverte surprenante bouscule notre connaissance sur les mécanismes du corps humain. C'est chez la souris que des chercheurs californiens ont d'abord fait cette observation. Des mégacaryocytes, véritables usines à plaquettes, ont été observées dans les poumons des rongeurs. Elles y produisent plus de 10 millions de plaquettes par heure, environ la moitié des plaquettes sanguines d'une souris. Reste à voir maintenant si ce mécanisme est également présent chez l'être humain. Se poser sur Europe, une des lunes de Jupiter, pourrait s'avérer plus compliqué que prévu. C'est pourtant l'un des objectifs que la NASA s'est fixé. D'ici à 2030, l'agence spatiale suspecte l'existence d'un océan sous la surface glacée de la Lune. Mais cette surface présente plusieurs défis à relever. La température moyenne y est de moins 176 degrés et de nombreuses crevasses s'y sont formées. L'objectif est de se poser là où la glace est la moins épaisse. L'accès à l'océan et donc le prélèvement d'échantillons en serait facilité. Leur analyse, en tout cas, permettrait alors de révéler la présence d'éventuels signes de vie là encore. Pour l'heure, donc, la première étape est d'identifier des sites potentiels d'atterrissage. Et puis, laisser nos enfants jouer en extérieur est bon pour l'environnement. C'est ce que suggère en tout cas une étude canadienne. Vivre des expériences positives en pleine nature pendant l'enfance influence sur la façon dont nous traitons notre environnement. Catherine Broom, chercheuse dans les sciences de l'éducation, a interrogé une centaine d'étudiants âgés entre 18 et 25 ans. Résultat, ceux qui étaient habitués à jouer dehors plus petits expriment leur affection pour la nature à 87%. Parmi eux, 84% estiment que la protection de l'environnement est une priorité pour la chercheuse. La multiplication de programmes de sortie scolaire serait une piste pour rendre les enfants plus éco-sensibles une fois adultes. Allez, le dossier en direct et en public sur les exoplanètes, c'est dans un instant.
Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations, I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me. This is new to you initially. I didn't wanna fall, but you gathered my attention. It was all for you. So don't take advantage. Don't leave my heart damaged. I understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location? Let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off of sub-tweet, so let's.
let's get personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night then. Ship me your location, let's focus on communicating. Cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's find the vibrations. I don't need nothing else but you. Ride, 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 come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you.
I don't need nothing else but you.
Ride, 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 come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. Nothing else but you.
Location, et c'est Khalid à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Voilà, ce sont donc des planètes situées en dehors de notre système solaire et qui pourraient un jour nous prouver que la vie n'est pas une singularité terrestre. Dossier donc consacré cet après-midi à ces exoplanètes avec mes invités et des lycéens de quatre établissements qui sont avec nous à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école. D'ailleurs, on va vous prouver qu'ils sont là puisqu'ils sont dans le public et en super forme. Et ils vont intervenir pendant toute l'émission pour poser des questions à nos invités. Alain Cavalier, vous êtes chercheur en astrophysique, directeur de recherche au CNRS et président de la commission Exoplanètes et Systèmes Solaires de l'Union Astronomique Internationale. Franck Celsis, vous êtes également astrophysicien dans un laboratoire d'astrophysique à Bordeaux et vous êtes co-signataire de plusieurs publications sur le système TRAPPIST-1, qui est donc le nom donné à une étoile autour de laquelle gravitent 7 planètes et dont la découverte a été révélée il y a un mois maintenant. Et puis Philippe Hénard, vous êtes le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, avec les auditeurs qui nous rejoignent également sur le site franceinter.fr et le mot-clé l'attaque, et donc les élèves des lycées Condorcet, Claude Bernard et Molière à Paris, et puis ceux du lycée Saint-Exupéry à Créteil, qui, ces lycéens-là, viennent du monde entier, puisqu'ils font partie d'une classe dans laquelle ils apprennent le français. Franck Celsis, on le disait, presque, hein, 4000 exoplanètes découvertes depuis 1995. L'exoplanétologie, on dit ça comme ça, c'est une nouvelle discipline?
Oui, c'est une nouvelle discipline. Il faut bien se rendre compte que ce qu'on sait sur les planètes, ce qu'on savait jusqu'à la découverte des premières exoplanètes il y a 20 ans, on le doit à l'étude des planètes du système solaire, donc 8 planètes. Et pour ce qui est des planètes comme la Terre, des planètes telluriques, on le doit à l'étude de 4 planètes, dont 3 ont des atmosphères, donc Vénus, la Terre et Mars.
Ouais.
Donc on a 3 pièces du puzzle pour comprendre la planétologie en général, qui, on s'aperçoit finalement, est un puzzle de milliers de pièces. Et donc on a très très peu d'informations, et oui, l'exoplanétologie commence.
Alors quand on dit à peu près 4000 exoplanètes découvertes, ça veut dire quoi concrètement?
Alors, ça veut dire que pour la plupart d'entre elles, on sait qu'elles sont là. On a mesuré généralement leurs paramètres orbitaux, enfin leur période orbitale. Mm-hmm. On sait généralement à quelle distance elles sont de leurs étoiles. Pour la plupart d'entre elles, on connaît leur rayon, parce qu'il se trouve qu'elles passent devant le disque de leur étoile, produisant ce qu'on appelle des transits. Et une autre partie d'entre elles, on connaît leur masse, ou on a une estimation de leur masse, parce qu'on voit leur effet sur le mouvement orbital de l'étoile, par la méthode qu'on appelle des vitesses radiales. Et généralement, c'est à peu près tout ce qu'on sait.
Ouais.
Et il y a quelques exoplanètes où on commence à avoir ces deux informations en même temps, c'est-à-dire le rayon et la masse, auquel cas on a la densité. On peut commencer à se poser des questions sur de quoi elles sont faites, leur composition. Et pour certaines exoplanètes, plutôt des planètes géantes et gazeuses et chaudes, on commence à avoir des informations sur leur composition atmosphérique, sur la température de leur atmosphère.
Mais alors, s'il fallait imaginer le nombre d'exoplanètes réellement dans notre Voie lactée, par exemple, Philippe Hénarejos, on a un moyen de proposer un chiffre aujourd'hui ou pas ?
Bah oui, mais on peut faire... comme les sondeurs, on peut faire un sondage. On sait que les planètes tournent autour d'étoiles. On connaît à peu près, c'est une estimation, mais elle est à peu près juste, le nombre d'étoiles qu'il y a dans la Voie lactée. Oui. C'est aux alentours de 200 milliards. Enfin, on parle à masse solaire. Alors après, les astronomes vont pondérer tout ça, mais en gros, 200 milliards d'étoiles. Mmh. Bon, il n'y a peut-être pas des planètes autour de chaque étoile, mais mettons qu'il y ait une planète autour de chaque étoile, ça fait à peu près 200 milliards, comme bon. Ça, à la louche. Les astronomes ont peut-être des estimations plus précises à partir de données plus précises que ce que
Alain Lecavelier, alors.
Oui, ce que vient de nous décrire Philippe Hénarejos, c'est tout à fait juste. Effectivement, en fait, on utilise la méthode des sondages. On fait une extrapolation à partir de quelques observations, 3600 planètes connues aujourd'hui, ce qui est déjà énorme. Et on extrapole à ce qu'il doit être autour des étoiles de la Voie lactée. Mais on peut multiplier ce nombre par les 200 milliards de galaxies dans l'univers. Ouais. Donc ça fait... 200 milliards fois 200 milliards fois le nombre de planètes par système, par étoile. Vous pouvez faire la multiplication, là, je vois que les lycéens sont sur leur calculette, et vous voyez que ce sont des nombres que nous ne sommes pas capables d'imaginer, en fait. Hein. Faut bien voir, même l'astronome, il a l'habitude de manipuler les grands nombres, mais il ne peut pas imaginer ce que représente ce nombre.
Bon, on devrait quand même bien finir par trouver de la vie, quand même, sur ce nombre absolument exorbitant de planètes, non ?
Moi, je suis très optimiste, vraiment, je suis très optimiste. D'abord, effectivement, le grand nombre, mais aussi, si on regarde ces 3600 planètes que l'on a découvertes depuis une vingtaine d'années, on constate l'énorme diversité de ces planètes. Si on doit résumer ces 20 années de découverte en un seul mot, j'utiliserai le mot diversité. On a découvert des systèmes extrêmement divers qui ne ressemblent pas du tout aux planètes du système solaire. Et cette diversité, finalement, c'est le terreau du développement de la vie. Et donc, ça me permet d'être très optimiste.
Ouais. La vie existe peut-être même déjà sur l'une de ces 3600 exoplanètes. Il y a de bonnes candidates quand même pour Celsius.
Ça n'est pas interdit, mais on n'en sait absolument rien. On ne sait pas si la vie dans l'univers est un phénomène rare ou fréquent. Mmh. Est-ce qu'on, si la vie est florissante et qu'on la trouve dans une grande fraction de ces planètes, eh bien oui, cette découverte, elle est peut-être imminente, je veux dire, à l'échelle de quelques décennies, ce n'est pas impossible. Si par contre elle est très rare et qu'on n'en trouve qu'une par galaxie et pas dans toutes les galaxies, effectivement, ça va mettre un temps considérable. Et bien c'est ça qui est fascinant. Il ne faut vraiment avoir aucun a priori. Mmh. Il faut explorer. Et regardez ce que ça va nous raconter dans les années à venir, en ayant l'esprit ouvert et en sachant que justement cette diversité va nous présenter des environnements très différents de ceux qu'on connaît dans le système solaire. Donc on va devoir apprendre. Les décennies à venir vont être des décennies d'apprentissage de ce que sont des planètes.
Alors on va les explorer justement avec les élèves qui sont là aujourd'hui ici dans le public au studio 106. Et la première question vient de Taïa. Bonjour Taïa. Et vous arrivez de Moldavie,
c'est ça.
Et vous êtes donc au lycée Saint-Exupéry de Créteil. Vous êtes dans cette fameuse classe monde avec d'autres camarades de plusieurs pays.
Alors, oui, c'est ça.
Ta question, Taïa.
Est-ce qu'un jour, comme sur la Lune, les hommes iront sur une exoplanète ?
Philippe.
Un jour peut-être, mais c'est dans très 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 longtemps. Parce que il faut vraiment avoir à l'esprit que la différence de distance entre la Terre et la Lune, en gros 400 000 kilomètres, et la Terre ou le système solaire et la première étoile, 4,3 années-lumière, c'est incommensurable. C'est-à-dire qu'il faudrait voyager, même en supposant qu'on approche une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière, ce qui pose d'énormes problèmes, ça mettrait des décennies et il y aurait des effets incroyables et on ne sait pas si sur la première exoplanète la plus proche, il y en a une autour de l'étoile la plus proche à 4 années lumière et demie. On ne sait pas s'il y a de la vie. Bon, on le saura peut-être un peu parce qu'elle est proche, on va pouvoir l'étudier justement. Oui. Mais où se trouve la prochaine planète habitée, non pas simplement habitable. Elle est peut-être très très loin. Et de toute façon, ça demande une technologie dont on n'a même pas idée aujourd'hui.
Ouais. Il faudrait combien de temps pour aller à 4 années lumière de chez nous, Franck Celsius, alors
ça dépend de la vitesse à laquelle vous y allez. Si vous y allez à la vitesse de la lumière, c'est instantané.
Mais pour un humain, évidemment. Parce
c'est ça la difficulté. On est incapable d'extrapoler jusqu'où la technologie, notre maîtrise de l'énergie nous amènera. Donc, si on part de ce qu'on sait faire aujourd'hui, bien sûr, c'est incommensurable, comme l'a dit Philippe. Moi, je suis lecteur de science-fiction depuis toujours, donc j'ai pu voir dans la littérature de science-fiction plein de projets imaginaires complètement fantastiques à ce jour. Mais, à nouveau, on n'est pas capable d'extrapoler. Donc, qui sait ce qu'on arrivera à maîtriser.
Alors, il y a d'autres questions dans la salle qui nous viennent, par exemple, du lycée Claude Bernard. Il y a Grégory et Charline. Alors, je crois que c'est Charline qui va poser la question. Bonjour.
Bonjour, j'avais une question. Comment observez-vous les exoplanètes et avec quels instruments utilisez-vous?
Alors, qui veut répondre? Alain Le Cavalier, par exemple.
Oui, quand vous dites observer, en fait, il y a deux façons d'observer. Il y a la première qui a été décrite assez en détail par Franck Celsis tout à l'heure, c'est-à-dire la découverte, comment on fait pour les voir qu'ils sont là. Et donc, il y a deux techniques qui ont été mentionnées. C'est la première, c'est de voir le mouvement de l'étoile provoqué par la planète qui orbite autour d'elle. L'autre technique, c'est de voir l'ombre de la planète passer devant l'étoile, la technique dite des transits qui permet de mesurer la taille de la planète. Et ces deux techniques ont donné à elles seules près de la quasi-totalité, pas entièrement, mais quasiment la totalité des 3600 planètes que nous mentionnions tout à l'heure. Mais là, on n'a qu'une observation très limitée des propriétés de ces planètes. Mais pour quelques-unes de ces planètes, on peut les observer en grand détail, en particulier quand ces planètes passent devant leur étoile. Parce que quand la planète est devant son étoile, une partie de la lumière de l'étoile traverse les couches atmosphériques de la planète. Et on peut, en analysant cette lumière, faire des mesures des propriétés physiques de l'atmosphère de cette planète. Et pour vous donner quelques exemples, on peut mesurer la présence d'atomes ou de molécules, la présence de sodium, la présence d'eau pour quelques-unes de ces planètes, l'eau sous forme gazeuse. Et puis on peut mesurer la température. Et il y a même quelques cas où on peut mesurer des variations de la température en fonction de l'altitude dans l'atmosphère. Et je ne sais pas si vous réalisez combien c'est extraordinaire. On est en train de mesurer des variations de température dans l'atmosphère d'une planète qu'on n'a même pas vue en simplement observant l'ombre de cette planète passer devant son étoile.
Oui. Et donc on est capable de faire ça quand même.
Oui, pour quelques-unes, mais on est capable de le faire. Philippe... Et ce qui me permet d'être très optimiste, parce que on peut extrapoler à partir de ces techniques ce qu'on sera capable de faire dans les quelques décennies qui viennent pour sonder réellement ces atmosphères en très 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 grand détail.
Philippe.
Pour compléter juste ce qui a été dit, ces observations se font avec des télescopes au foyer desquels on met des instruments, ce sont en gros des appareils photonumériques pour simplifier, et on analyse surtout la lumière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photos de ces exoplanètes. C'est la lumière de l'étoile qui est analysée. Alors quand la planète passe devant, cette lumière diminue, on déduit qu'il y a une planète, et parfois on fait ce qu'on appelle des spectres, on décompose cette lumière pour avoir la composition. Ceci dit, je parlais de photos, il y en a quand même, c'est la troisième technique.
Oui.
Et on a une poignée de planètes, d'exoplanètes, qu'on a photographiées, dont une qui est que nous connaissons bien, Alain Le Cavalier et moi, et même Francis VI, qui est Beta Pictoris B. Oui. Cette planète, on la voit au fil des ans tourner autour de son étoile, et c'est de la photo.
Oui. Allez, on y revient dans un instant. C'est aujourd'hui donc le dossier de l'émission en direct du studio 106 de la Maison de la Radio. Et on parle de ces exoplanètes avec également vos messages sur franceinter.fr. On se retrouve après Radio Elvis et la route.
Je ne t'oublierai jamais. Criais-je sur le départ. Et la nuit s'est levée, nous blessant au hasard. Pour me perdre un peu plus, pour nous perdre un peu plus. Tanin, les mirages éteignaient nos naissances sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de ça. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères, laissant à découvert la route. Parsemée d'ossements, j'essayais doucement de contenir les vents. La route. Et l'orage s'avançait, nous faisant chevalier.
de ces légions fantômes. J'ai trop longtemps marché dans les pas d'un cyclone. Un mirage éteignait la naissance sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères. J'ai prononcé des mots que je ne connaissais pas. Jamais si proche de moi que sur les chemins de l'errance.
Commandant, au sujet de ce programme sur les possibilités que peut prévoir le maître ordinateur...
Qu'est-ce que ça donne à votre avis?
En se fiant à notre trajectoire actuelle, nous devrions approcher d'au moins, disons, 10 millions de planètes. Ce qui, statistiquement, nous en promet environ 3600 d'un type semblable à celui de la Terre. Ce qui veut dire qu'on est en mesure d'espérer rencontrer une infinité de planètes habitables pour notre équipage.
Et à votre avis, combien d'années risquent de s'écouler avant que nous n'atteignions la première de ces planètes du type de la Terre?
Oh, pas tellement, professeur. Relativement parlant, ça va de soi.
Je ne crois pas que je sois spécialement impatient, Canon, mais je voudrais savoir combien nous prendra un tel voyage jusqu'à cette planète.
Seulement 2543 ans, 4 mois et 10 jours. Je sais que vous aimez l'exactitude.
Je vous en remercie.
Voilà, et nous aussi, nous aimons l'exactitude dans cette tête au carré consacrée aux exoplanètes. Philippe Hénarejo, vous avez reconnu Cosmos 1999.
Oui, hein, que je regardais assidûment quand j'étais petit. Et puis ouais. 2500 ans, c'est pas si long finalement.
Oui, hein, mais là, c'est très court. Oui. C'est très très court, c'est là, quand même. Franck Celsis, un commentaire sur Cosmos 1999.
Non, c'était très bien. Martin Landau, Barry Morse.
C'est ça.
Sur la Lune à la dérive, formidable.
Oui, ça vous
formidable.
A fait rêver. Alain Lecavalier, vous aussi, ça fait partie de vos références.
Oui, j'étais fan depuis le 13 septembre 1999.
Bon, évidemment, une série qui est passée un peu tôt pour nos amis qui sont là dans la salle, qui sont tous lycéens, à l'occasion, je le rappelle, de la semaine de la presse et des médias à l'école. Il y a beaucoup de questions pour vous, alors on va tout de suite passer les micros. C'est Ariakina du lycée Claude Bernard qui a une question à vous poser. Bonjour,
bonjour.
Ariakina.
Si un jour on accède à une exoplanète habitée, comment les scientifiques envisagent-ils la prise de contact et les rapports avec ces exo-habitants?
Ah oui, un exo-habitant. Oui. Franck Celsis, à vous de vous y coller.
Oui. Alors, il y a différentes choses. Nous, on est astrophysiciens, on étudie les planètes, leurs atmosphères. On peut éventuellement envisager de trouver des signes très indirects de vie, par exemple, par une atmosphère qui aurait été modifiée par la vie. Le contact, ça implique le contact avec une intelligence. Et là, on est dans de la politique au niveau galactique, avec des protocoles qui feraient intervenir des discussions au plus haut niveau. Donc, ça dépasserait le cadre de la science. Bon, j'ai pas d'opinion.
Mais non, c'est ça. Il ressemblerait à quoi cet exo-habitant? Ce serait une bactérie ou ce serait un individu qui nous ressemblerait?
Oui, vous abordez exactement la question que je souhaitais qu'on aborde parce que ça a été un peu souligné, enfin évoqué tout à l'heure avec les voyages, etc. Il faut voir que quand on évoque ici la vie sur des planètes extrasolaires, il s'agit en aucun cas de vie sous la forme de petits bonhommes avec deux yeux, deux bras, deux jambes.
Oui, mais oui.
C'est quelque chose qui sera même très certainement très différent de la vie sous la forme sous laquelle nous la connaissons sur Terre. Et c'est peut-être même la grande difficulté pour nous, quand nous disions, nous cherchons les signatures de la vie sur les autres planètes, finalement, ça sera des choses qui seront très différentes de ce que nous avons ici. Qu'est-ce que peut être une signature de ce qui est différent? Et c'est là que, comme le disait Franck Celsis tout à l'heure, il faut garder l'esprit ouvert. C'est extrêmement important.
Tout est possible. Hein.
Tout est possible.
Vous parliez de diversité tout à l'heure. Oui. Là aussi, on pourra en trouver beaucoup.
Exactement. Hein. Donc, la vie, il ne faut absolument pas s'imaginer deux bras, deux jambes et deux yeux. Et un dernier point. Sur cette question de communication, ce serait intéressant de lire Le Nuage Noir, qui a été écrit par Fred Hoyle, qui est un excellent livre de science-fiction, écrit par un astrophysicien, peut-être un des rares, écrit par un astrophysicien, qui parle de cette question du contact. Et ça permet de réaliser que finalement, d'une certaine façon, de détecter l'intelligence, ça peut être plus facile que détecter la vie. Parce que l'intelligence a des signatures qui sont extrêmement fortes. Par exemple, si on en reçoit des signaux des nombres premiers jusqu'à 10 000, on pourra dire là, il y a quelque chose. C'est évidemment la signature de quelque chose d'intelligent. Et c'est peut-être plus facile à détecter que des signatures de la vie, dont on ne sait pas ce qu'elle est.
Oui, alors c'est une question qui est quand même très futuriste, mais malgré tout, sans bouger d'ici, ça a été envisagé qu'il y ait un contact. C'est très hypothétique, mais alors là, ça n'appartiendrait pas ni à la communauté scientifique, ni aux découvreurs. Il y a un protocole, je crois, qui est prévu, et qui déplace la gestion de cet éventuel contact à l'ONU.
Ouais. C'est l'ONU qui serait chargée,
qui serait chargée de faire l'annonce. De savoir si, déjà, il faut parler, hein, si on nous contacte, s'il faut répondre, sinon on doit appeler, et puis qu'est-ce qu'on doit dire, surtout au nom de qui
Alors, Émile, tu as une question également, bonjour, et toi, tu es du lycée Condorcet, bonjour.
Bonjour. Alors, je me demandais, s'il y a quelques dizaines d'années-lumière, il y avait quelqu'un qui observait la Terre, par exemple, est-ce que ce serait facile pour eux de détecter qu'il y a de la vie sur la Terre? Parce qu'on a des océans, des nuages, donc...
Est-ce que la vie sur notre planète est visible de loin?
C'est une excellente question. En fait, elle est visible par ses effets. Il faut savoir que là, l'atmosphère de cette pièce, comme l'atmosphère de notre planète, elle est riche en oxygène. Et cette richesse en oxygène, c'est la vie qui la crée, qui la maintient depuis plus de 2 milliards d'années. Et ça, c'est fait par des algues, des bactéries, aussi par les plantes. Et donc, on a une planète qui est modifiée en profondeur à un niveau macroscopique par des micro-organismes. Et ça, c'est visible par des moyens à distance que l'on n'a peut-être pas strictement aujourd'hui, mais que l'on aura, là, pas dans un siècle, mais dans quelques décennies, on pourra identifier des planètes riches en oxygène. Donc, en fait, c'est très motivant. Après, c'est le début de la question. Si on trouve une planète avec une atmosphère riche en oxygène, il faudra être très prudent. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'avoir une atmosphère et qui n'implique pas la vie, d'avoir une atmosphère riche en oxygène? Et aussi, est-ce que la vie ne peut pas se manifester par des compositions extrêmement différentes? Parce que nous, on n'a qu'un exemple de ce que la vie a pu faire à une planète. Donc, pour répondre à ta question, si quelqu'un, quelque chose, regarde la Terre et voit une atmosphère riche en oxygène, il verra une conséquence de la vie. Est-ce qu'il sera capable de réaliser que c'est là une conséquence de la vie? C'est tout le cœur de la question.
Alors, il y a une question de Livio. Je crois que c'est le lycée Molière, hein, Livio, c'est ça? Bonjour à toi.
Alors bonjour. Ma question serait, que sait-on sur les autres caractéristiques des autres planètes? Sait-on par exemple si elles ont une atmosphère? Et s'il y avait de l'eau à la surface d'une exoplanète, est-ce qu'on pourrait certifier qu'il y a de la vie ou pas?
Alors Alain Le Cavalier, est-ce qu'il y a de l'atmosphère, de l'eau? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui exactement de ces exoplanètes?
Alors pour un peu plus d'une dizaine d'exoplanètes, on a pu détecter les atmosphères, même en, comme je le disais tout à l'heure, mesurer des propriétés, la température, mais aussi la pression. Il y a une planète pour laquelle on a vu des variations en fonction du temps, c'est-à-dire une sorte de météo. Donc on connaît beaucoup de choses, mais que pour quelques planètes, essentiellement des grosses planètes. La plus petite pour laquelle on a pu faire des mesures fait la taille de Neptune. Et on sait donc que pour certaines d'entre elles, il y a de l'eau, mais pas de l'eau sous la forme liquide, comme nous le connaissons sur Terre, mais sous forme gazeuse.
Juste pour compléter, il y a un cas bien particulier qui est justement dans ce système TRAPPIST-1, qui est une petite étoile qui a 7 planètes. Et c'est un cas très particulier parce que ces planètes-là, on peut déterminer leur rayon et avec les mois qui vont s'écouler, les années, on va déterminer leur masse. Et il se trouve que pour l'instant, on a une erreur assez importante sur cette masse, elle est très approximative, mais on a l'impression qu'il y a une tendance à ce que ces planètes soient de densité beaucoup plus faible que la Terre. Si ça se confirmait, on aurait des planètes dont on pourrait dire qu'elles sont riches en composés volatiles, essentiellement en eau. Probablement, mais ça pourrait être d'autres glaces. Et certaines de ces planètes sont à une distance telle que si elles sont riches en eau, elles auront forcément une atmosphère. Et elles auront forcément, pour certaines d'entre elles, au moins partiellement sur leur planète, de l'eau à l'état liquide. Donc cette mesure de la masse, qui pour l'instant on ne peut pas conclure sur la composition, mais on va l'affiner, et si dans les années à venir on confirme qu'elles ont une densité faible, un peu comme les satellites glacés, on parlait d'Europa tout à l'heure dans les news, alors là on aurait une planète riche en eau et qui, de par sa distance, ne pourrait pas faire autre chose qu'avoir de l'eau liquide et une atmosphère.
Philippe, il y a une question de Victor sur franceinter.fr qui demande si Pluton est une exoplanète.
Alors non, Pluton n'est déjà plus une planète puisqu'elle tourne autour du Soleil. Elle a été déclassée en 2005-2006 parce que, enfin, pour des raisons de mécanique céleste. Ceci dit, cette question est quand même assez pertinente parce que il y a des corps glacés comme ça au-delà de Pluton qui ressemblent à Pluton, qui ont des orbites un peu bizarres, un peu elliptiques. Et certains astrophysiciens, j'ai vu passer des publications à ce sujet, se sont demandé si certains de ces corps n'avaient pas été capturé à d'autres systèmes planétaires, ah oui, et serait maintenant en orbite autour du Soleil. La question est très ouverte, il n'y a aucun élément objectif.
Ça, c'est fascinant. Donc d'un système solaire à un
parce
autre...
Que vous savez que les étoiles se baladent dans la galaxie, parfois elles se rapprochent les unes des autres, et elles pourraient éventuellement s'échanger des corps, comme ça, se piquer des planètes.
Donc dans notre système solaire...
Plutôt, on ne pense pas que c'est le cas, oui, mais dans notre système solaire, oui.
On pourrait avoir des fossiles d'autres systèmes, en tout cas, Franck Celsius.
Oui, en particulier, en fait, au début de l'histoire des étoiles, quand elles viennent de se former, elles sont dans des amas très denses, et il y a beaucoup de rencontres proches, et effectivement, il y a plusieurs simulations qui montrent que quand ces planètes se passent à proximité, alors une des conséquences, ça peut être d'éjecter des planètes dans l'espace intersidéral, mais dans certains cas, il y a une capture et éventuellement un échange. C'est une question qui pourrait se poser si on confirmait, si on trouvait cette fameuse planète 10 dans le système solaire.
Ah, vous en êtes déjà à 10?
Oui, ils cherchent les
planète 9, excusez-moi.
La 9e. On a déjà pas trouvé la 9e.
Vous m'avez parlé de Pluton, c'est
la si on passait à 10 déjà, on est un peu perdu. Direction le lycée Saint-Exupéry avec une jeune fille. Bonjour, comment t'appelles-tu?
Je m'appelle Shams.
Et d'où viens-tu?
Je suis algérienne.
Bienvenue à toi, à ta question.
J'ai une question, comment s'appellent les exoplanètes?
Comment s'appellent les exoplanètes? Tu veux le nom des 3600? Alors, Alain Le Cavelier.
Je suis très très heureux que cette question soit posée, parce qu'elle est très souvent posée, et je me bats à l'Union Astronomique Internationale pour qu'on puisse donner des petits noms, pas à ces 3600 planètes bien sûr, mais aux plus intéressantes. Et alors pour actuellement, on utilise des noms de nomenclature qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on donne pour ces planètes le nom de leur étoile auquel on ajoute une petite lettre, petit b pour la première planète qu'on découvre, sous-entendu que A désigne l'étoile, petit c, etc. Donc tout à l'heure, les planètes autour de Trappiste 1, dont on parle, c'est Trappiste 1b, Trappiste 1c, Trappiste 1d, etc.
Il y a des noms plus barbares, HD 209, 406,
alors, certaines planètes, comme par exemple HD 149, 026b, c'est un nom qui est très pratique pour l'astronome, pour ses catalogues. C'est très important de conserver ces noms, mais c'est très intéressant pour vous, pour nous, d'avoir aussi des petits noms. Et l'Union Astronomique Internationale avait lancé, il y a 2 ans, un concours pour nommer des exoplanètes. Alors, des noms avaient été proposés par des clubs d'astronomie.
Par exemple, vous en souvenez quelques-uns?
Oui, bien sûr que je m'en souviens.
Qu'est-ce qu'il y avait comme proposition?
Par exemple, le HD 149-026B a obtenu d'être nommé suivant 2 noms de dieux gaulois. Ouais. C'est des noms qui avaient été proposés par les clubs d'astronomie de Toussaint et de Fécamp. Et donc, ils s'appellent Ogma et Smertrios, pour des noms de dieux gaulois. Donc, actuellement, il y a 31 exoplanètes qui portent des petits noms.
Ah, quand même.
De noms de... Alors, de toute civilisation. Il y a des noms gaulois, mais aussi des noms thaïlandais, des noms marocains, de civilisations, de dieux de civilisations d'Amérique du Sud, etc.
Donc, et chez les trappistes, là, est-ce qu'on a du belge aussi, ou pas, Franck Celsius? Parce que Trappiste 1, c'est des Belges qui ont découvert quand même ce système.
Oui, donc c'est,
et qui, avec leur humour légendaire, ont donné le nom de l'étoile.
Tout à fait, ça fait partie d'un projet qui s'appelle Spéculoos.
Voilà,
et
en plus.
Donc c'est le cœur de cette découverte est à l'université de Liège. Et le télescope qui a pu découvrir les premières de ces planètes, ça a ensuite été complété avec le télescope spatial Spitzer de la NASA. Donc ça s'appelait Trappiste, c'est un petit télescope. Et juste pour l'anecdote des noms, quand la découverte de ces 7 planètes a été annoncée dans la revue Nature, Nature a aussi publié une nouvelle de science-fiction, très courte, qui s'appelle Le Terminateur, écrite par Laurence Sunner.
Le Terminateur?
Le Terminateur, c'est cette ligne qui sépare le côté jour du côté nuit d'une planète. C'est pas un robot qui vient du futur.
Oui, c'est ça, oui.
Et dans sa nouvelle, elle a donné des noms que les colons terriens donnent à ces planètes. Et bien, on commence un petit peu, nous, entre nous, comme ça, à les utiliser. On parle de Pangu.
Allez, encore plein de questions des lycéens dans un instant et celles des auditeurs. On poursuit notre discussion autour des exoplanètes en direct du studio 106. C'était At Kaust à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Allez, les exoplanètes, donc avec nos lycéens qui sont ici, avec Alain Lecavelier, Franck Celsis et Philippe Hénarejos. Alors, Philippe, il y a François, et puis il y a plusieurs mails comme ça qui sont arrivés. Tout à l'heure, vos propos n'étaient pas clairs. Selon François, si une planète se situe à 4 années-lumière, il faut donc 4 ans pour l'atteindre. Si on voyage à la vitesse de la lumière, votre invité a dit que ce serait instantané. Je n'ai pas compris, nous dit François. Alors, qui veut répondre, Philippe ou Franck Celsis?
Le voyage n'est pas instantané, ça,
si,
c'est sûr.
Si, pour vous, si vous êtes voyageur, c'est instantané. Si vous restez sur Terre et vous assistez au voyage, il mettra 4 ans. Si vous vous déplacez, pour la lumière, l'espace n'existe plus.
Ça doit être de la physique relativiste.
C'est de la physique relativiste, tout à fait. C'est une question de temps propre.
Donc on peut dire que ce serait instantané.
Pour celui qui voyage, si, c'est pas possible, puisqu'il faudrait que vous accélériez jusqu'à cette vitesse.
Mais pour sa femme qui l'attend, par exemple, à la maison.
Eh bien, ça prendrait 4 ans, et 4 ans aller, 4 ans retour.
Ah, quand même, voilà.
Ça, c'est incompressible. Donc c'est un gros problème de communication.
Vous aviez tous les deux raison, finalement. Tout dépend de l'endroit où on se place.
Tout est relatif.
Exactement. Alors, il y a des questions dans le public, puisqu'il nous reste 10 minutes. On y va tout de suite. Il y a une jeune fille ici qui fait partie du lycée Condorcet, je pense. Oui. Bonjour, comment t'appelles-tu ?
Bonjour, je m'appelle Alix.
Bienvenue, Alix.
Et je voulais juste demander si les exoplanètes étaient observées avec des instruments placés sur Terre ou des instruments placés dans l'espace.
Alors, Alain Lecavelier ?
Les deux. Les deux, mon capitaine. Des observatoires au sol et des observatoires dans l'espace. Alors, au sol, on a l'avantage de voir des grands télescopes jusqu'à 8, 10 mètres de diamètre. On peut collecter énormément de lumière des étoiles autour desquelles les planètes tournent. Dans l'espace, on a des télescopes plus petits. Le plus gros de ces télescopes dans l'espace, c'est le télescope Hubble, qui fait 2,40 m de diamètre. Alors, c'est un peu plus petit, mais par contre, dans l'espace, il n'y a pas l'atmosphère de la Terre qui induit une perturbation. Et donc, on est souvent, le plus souvent, beaucoup plus sensible. La plupart des observations des atmosphères d'exoplanètes ont été faites avec les télescopes spatiaux, Hubble et quelques-unes avec le télescope Spitzer qui est aussi dans l'espace.
Allez, une autre question. Tout en haut du studio 106, une jeune fille également. Bonjour. Comment t'appelles-tu ?
Eva.
Tu viens de quel lycée, Eva ?
Claude Bernard.
Claude Bernard, donc à Paris.
C'est plutôt une question sur l'humanité. Ne craignez-vous pas que les hommes saccagent la Terre si l'on sait que l'on peut aller vivre sur les exoplanètes?
Ah, qui veut répondre?
Est-ce que tu penses qu'ils ne la saccagent pas déjà maintenant?
Est-ce que ce sera pire le jour où on va pouvoir aller vivre ailleurs? Alors,
en fait, la réponse, c'est que ce que nous l'a dit Franck Celsis tout à l'heure, c'est pour dans plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, qu'on pourra effectivement se déplacer de manière significative sur les autres planètes. Donc je pense que là, d'ici là, il faudra prendre soin de notre petit bateau. Ça permet de réaliser que notre planète est un bateau fort précieux dans l'espace.
Puis, tu sais, tu poses une question finalement sur la connaissance. Finalement, tu nous interroges sur le fait, est-ce qu'il faut savoir ou pas savoir? Il faut toujours savoir dans quel univers on vit, de quoi il est fait. Après, ce qu'on fait de ce savoir, comment on réagit, ça c'est à chacun d'entre nous de se poser la question. Mais on ne va pas se mettre des œillères pour se dire, moins j'en sais, mieux je vais préserver mon environnement. Il faut savoir, il faut développer notre connaissance, il faut explorer l'univers. Et ça nous mettra toujours dans de meilleures dispositions pour agir au mieux, ben je pense.
Allez, direction le lycée Saint-Exupéry. Bonjour, jeune homme.
Bonjour.
Comment t'appelles-tu?
Je m'appelle Hassim.
Tu viens d'où?
Algérie.
Très bien, on t'écoute.
De la vie de tous les jours. À quoi ça sert la découverte des exoplanètes?
Ouais. Alors, qui veut répondre? Dans notre vie de tous les jours, alors, pourquoi aller chercher si loin?
En fait, c'est une question qui nous revient souvent. Nous, astrophysiciens, on nous dit, mais à quoi vous servez? Et ma première réponse est de dire, à rien. Vraiment, on sert à rien. Ça sert à rien de savoir qu'il y a des exoplanètes. Ça sert à rien de savoir si éventuellement il y a la vie sur ces exoplanètes. Ça sert à rien, mais ça sert à rien autant qu'une symphonie de Beethoven ou un tableau de Picasso.
Donc c'est essentiel de le savoir.
Merci.
Allez, une question au premier rang. Bonjour.
Bonjour.
Lycée Condorcet également?
Oui.
Comment t'appelles-tu?
Eva.
Eva, bienvenue à toi.
Merci. Je voulais juste savoir quel facteur faisait que ces 7 exoplanètes découvertes par la NASA étaient si particulières et médiatisées?
Alors, d'ailleurs, elles ont été découvertes par la NASA?
Non, c'est ce qu'on retient. Je laisse la parole à Franck Celsis qui est belge.
Si vous allez sur le site de la Tête au Carré, vous verrez qu'aujourd'hui, on va parler de planètes découvertes, effectivement, annoncées par la NASA le 22 février. Elles ont été annoncées par la NASA, elles ont été annoncées par le CNRS, elles ont été annoncées par l'Université de Liège, elles ont été annoncées par l'ESO. C'est un travail international. Ce système planétaire autour de l'étoile Trappistin, il a été découvert sans intervention de la NASA au départ, uniquement avec le télescope Trappist, qui est un télescope belge situé sur un site européen de l'ESO au Chili. Et ensuite, étant donné qu'on avait trouvé ce système, on a demandé du temps sur un télescope spatial, comme n'importe qui peut le faire s'il a un bon projet. Et le télescope spatial Spitzer, qui effectivement a été mis en orbite par la NASA, a pointé sur cette étoile pendant 21 jours et a permis la découverte de la totalité des 7 planètes. Alors, il y a des gens dans les découvreurs qui sont affiliés à la NASA, mais l'idée n'est pas une idée d'origine de la NASA, et on a utilisé leur instrumentation. Voilà. On a tous participé ensemble.
Et il ne faut pas le chatouiller, Franck Celsis, sur cette question. Et on en avait parlé, d'ailleurs.
On en avait parlé, on avait rectifié ça.
Absolument.
Et par contre, la question était pourquoi ces planètes sont intéressantes.
Oui,
eh bien, parce que, d'abord, elles ne sont pas loin. Elles sont à 40 années-lumière. Oui, je sais, on a dit que c'était loin tout à l'heure, mais ce n'est pas loin. Et par contre, donc, ça veut dire qu'on va pouvoir les explorer, et elles sont intéressantes parce que 3 d'entre elles, je crois, se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable de l'étoile, c'est-à-dire dans un endroit où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, et où on peut, sous certaines conditions, espérer qu'il y ait de l'eau, qui est une condition a priori nécessaire pour de la vie.
Mmh. Allez, Franck Celsis, très vite pour terminer.
Ces planètes-là, les planètes autour de Trappist sont essentielles, tout comme la planète autour de Proxima, l'étoile la plus proche de nous, parce qu'elles vont compléter notre échantillon des planètes de type terrestre. On n'en connaît que 3 avec des atmosphères aujourd'hui. Tout ce qu'on peut imaginer sur l'habitabilité, ça vient de ça. On a besoin de ces quelques exoplanètes pour en savoir plus.
Et donc tout ça est très bon pour la connaissance, évidemment. Voilà, ainsi s'achève déjà notre émission. Merci beaucoup aux lycéens du lycée Condorcet, Claude Bernard, lycée Molière, Saint-Exupéry. On était très heureux de faire cette émission avec vous cet après-midi.